Et quand on t'emmène, un peu, ça peut évoquer. Je voudrais commencer en disant que, comme évêque, il nous arrive très souvent de rencontrer des groupes de discernement, en particulier des adolescents, bon, des adultes aussi, hein, des adolescents. Et les adolescents nous écrivent des lettres, hein, dans lesquelles ils écrivent leur demande de confirmation et puis leurs questions aussi. Il se trouve que l'autre jour, au cours d'une rencontre que j'ai eue avec les confirmants, eh bien, j'avais remarqué que dans les lettres, ils posaient des questions par rapport à la position de l'Église sur le mariage pour tous, voilà, sur des positions un peu qui ont été un peu en débat l'année dernière. Voilà. Et ils étaient un peu choqués, ils ne savaient pas trop comment se situer. Et donc, volontairement, j'ai abordé ces sujets avec eux pendant ce temps de rencontre, avant la confirmation. Et puis, j'ai passé une bonne heure à essayer de leur expliquer un peu, mais sur le plan anthropologique, voilà, quelles étaient les questions, hein, que l'Église posait par rapport à tous les projets de société, des projets de loi, en particulier sur les questions du mariage, sur les questions de filiation, sur le problème de l'avortement. Et puis, au bout d'une heure, il y a une jeune en haut, on partait vers l'église, et une jeune qui me dit: oui, mais enfin, quand même, il faudrait que l'église évolue. Voilà. Moi, je suis passé moi pour expliquer si ça va rien. Et c'est vrai qu'on entend souvent un peu cette question: pourquoi l'église est-elle toujours en retard sur les problèmes de la société? Pourquoi toujours en retard? Alors, d'abord, on comprend bien que la réponse à cette question suppose d'abord d'éclairer la notion de progrès. Est-ce que ça veut dire progrès? S'agit-il? Est-ce que c'est un progrès qui fait grandir la vie, qui la détruit? Est-ce que c'est un progrès qui permet vraiment le développement intégral de l'homme, ou bien au contraire qui le rend esclave de ses désirs? Est-ce un progrès qui respecte la dignité de la personne humaine, ou bien qui la dégrade? Est-ce un progrès qui renforce l'individualisme, ou bien qui cherche à promouvoir le bien commun? Il est vrai que l'Église peut paraître effectivement en décalage sur certaines questions que nous allons voir, mais je dirais que c'est un décalage pour le respect de la dignité humaine, et je dirais que ça entre même dans sa mission. D'abord, je voudrais quand même souligner que l'Église n'est pas toujours en décalage. Elle n'est pas toujours en décalage sur certaines questions qu'elle plaît, c'est vrai, mais elle est aussi reconnue comme pertinente. Et je pense à son engagement pour la justice sociale, est extrêmement développé. Je dirais que là, le décalage est dans l'autre sens, c'est-à-dire c'est du retard, et peut-être aussi de l'avance. Voilà. Auprès des migrants, auprès des réfugiés, pour le développement, dans de nombreux pays, pour la coopération internationale, pour la paix. Hein, quand je pense au travail actuellement de l'archevêque de Bangui en Centrafrique, avec son homologue musulman, le travail qu'il faut pour essayer de faire grandir la paix, l'Église est vraiment engagée, profondément. Là où il y a vraiment des épreuves, l'engagement de l'Église auprès des plus pauvres. Hein. On parle beaucoup d'ailleurs de laïcité dans notre pays, mais on voit bien dans les communes, les services sociaux font souvent appel au secours catholique, à la conférence Saint-Vincent-de-Paul, quand ils se retrouvent devant des cas qui n'arrivent absolument pas à résoudre, qui n'entrent pas dans les cadres. Et puis des figures comme Mère Teresa, Sœur Emmanuel, l'Abbé Pierre sont des figures qui sont reconnues, qui sont admirées, y compris par beaucoup de gens qui ne sont pas du tout catholiques. Donc vous voyez, elle n'est pas toujours en décalage, et je dirais que c'est plutôt autour des questions qui touchent à la morale individuelle, l'éthique que l'Église peut être contestée. L'Église dérange une société dont on devrait développer sans limite la liberté individuelle, mais en même temps, elle donne aussi des repères pour beaucoup de personnes, même non-croyantes, qui entendent ce que dit l'Église, parfois le contestent, mais en tous les cas, c'est comme un repère. On peut contester le repère, mais il est là. Les réactions de la société, même virulentes vis-à-vis de l'Église, montrent que ces interrogations, ces prises de parole ne laissent pas indifférent. Donc, s'ils laissent indifférent, bah, on laisserait l'Église parler et puis c'est tout. On ne parlerait même pas dans les médias. Donc l'intervention que je voudrais vous faire aujourd'hui, elle est modeste, mais j'aimerais d'abord relire avec vous quelques passages de l'Écriture pour comprendre un peu d'où viennent ces décalages, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme décalage entre l'Église et la société, et à quel décalage Jésus nous invite. Enfin aussi, comment nous engager comme chrétiens pour être vraiment fidèles, des fidèles témoins du Christ dans ce contexte. Et puis sur quoi, comme chrétien, on peut aussi s'appuyer. Qu'est-ce qui va être notre référence? Qu'est-ce qui va nous aider aussi à être des témoins? La première chose que je voudrais aborder, c'est la question du bonheur. Je dirais que l'Église a une certaine conception du bonheur, mais elle n'a pas forcément la même conception du bonheur qu'avec d'autres personnes. Il y a dans le livre du Deutéronome un passage qui indique bien l'orientation générale de ce que nous cherchons à comprendre. C'est un texte qui arrive en conclusion de toute la loi de Moïse, la loi qui scelle l'alliance entre Dieu et les hommes, et donc c'est Dieu qui parle. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Donc cette vie, ce bonheur que le Seigneur veut nous donner, c'est vraiment son progrès, mais en même temps, on le voit tout de suite dans cette phrase, il ne l'impose pas à l'homme, il fait appel à sa liberté. C'est à l'homme de décider ce qu'il veut faire de la vie qui lui est donnée en cadeau. Au fond, je dirais qu'il y a en tout homme un désir de vivre pleinement, d'être vraiment heureux, et en même temps, cette aspiration, la manière dont on va essayer de répondre à cette aspiration n'est pas si simple, le choix n'est pas si simple. D'ailleurs, si Dieu dit « choisis entre la vie et la mort », on va dire « évidemment, tout le monde va choisir la vie ». Mais pas forcément, justement, c'est pas si simple de discerner. Parce que ce qui apparaît comme une chose bonne et désirable au premier abord peut en fait devenir mortifère à long terme. Et nous connaissons tous la tentation d'Adam et Ève, qui, je vous le rappelle, représente tous les hommes et les femmes de tous les temps, Adam et Ève. Donc Adam et Ève, c'est la situation, c'est le choix que nous avons à faire, nous, aujourd'hui. Je vous lis le passage de la Genèse. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable. Cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence, elle prit de son fruit, il en mangea, elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Nous connaissons la suite de l'histoire, hein, c'est la chute qui va donner sens aussi toutes les épreuves humaines, mais nous pouvons en tirer aussi un message, c'est que le bonheur à court terme, ça paraissait désirable, ça paraissait beau, le bonheur à court terme peut devenir le malheur à long terme. Et je dirais qu'aujourd'hui, on le voit, tas d'exemples, hein, c'est le piège de la drogue, par exemple, on pourrait aussi revenir au temps d'une vie sexuelle trop précoce, trop débridée, le bonheur à court terme. Et puis toutes les addictions qui hypothèquent l'avenir de beaucoup de jeunes, ou encore d'un bonheur fondé sur la consommation des biens matériels, le matérialisme qui peut apparaître comme un bonheur. Comme nous dit le pape François dans son exhortation La joie de l'Évangile, dans laquelle nous puisons abondamment en ce moment, forcément, le grand risque du monde d'aujourd'hui, dit le pape François, avec son offre de consommation multiple et écrasante, est une tristesse individualiste qui vient du cœur bien installé et avare.